Hélène Roussel pour le journal, bonjour.
Bonjour. Moscou et Kiev, les avions viennent d'atterrir quasi simultanément. Échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. 35 de chaque côté, c'est inédit, dont le cinéaste ukrainien Sentsov. Nous sommes à Moscou dès le début du journal. Aigle Azur en faillite et des milliers de passagers en rade. Comment vont-ils rentrer? Que vont devenir les 1100 salariés? On fait le point dans un instant. Dans l'actualité encore, l'université d'été de la REM à Bordeaux ce week-end. Dorian, l'ouragan sur les Bahamas qui laisse la mort et la désolation, appelle au don du secours populaire. Son directeur général sera notre invité en direct tout à l'heure. L'appel du pape aussi contre la déforestation depuis Madagascar. La mort à 49 ans de Chester Williams, champion du monde de rugby avec l'Afrique du Sud 95, et les questions à nouveau sur le dopage. Perpignan, visa pour l'image, c'est le conseil cette semaine du service culture d'Inter. Et puis il va falloir se résigner à sortir les pulls. La météo de Jean-Michel Golinski à la fin du journal.
France Inter.
C'est sans doute l'image de cette mi-journée. Un avion qui atterrit à Moscou, un autre au même moment à Kiev, c'était il y a quelques minutes. Chacun avec 35 prisonniers à son bord. Un échange de prisonniers donc entre la Russie et l'Ukraine, le plus important depuis le début de la crise il y a 5 ans. Claude Brouillot, vous êtes le correspondant de France Inter à Moscou. Et parmi ces Ukrainiens qui ont décollé tout à l'heure de Russie, il y a ce nom qu'on connaît bien, hein, le cinéaste Oleg Sentsov.
Absolument, Hélène. Oleg Sentsov, donc de retour sur le sol ukrainien, accueilli par le président Volodymyr Zelensky, 5 années après son arrestation et surtout après cette condamnation à 20 ans de prison par la justice russe. Le cinéaste ukrainien avait toujours combattu les accusations dont il était l'objet, en l'occurrence avoir tenté de commettre des actes terroristes en Crimée, sa région d'origine, annexée par la Russie, on le sait, en 2014. Emprisonné en Sibérie occidentale, Sentsov était allé, souvenez-vous, jusqu'à faire plus de 4 mois de grève de la faim l'an dernier pour tenter d'obtenir sa libération, mais aussi celle de tous ses compatriotes prisonniers en Russie. Mais malgré une large mobilisation internationale, notamment dans les milieux culturels français, eh bien, le cinéaste ukrainien a donc dû attendre que la pression diplomatique des Occidentaux, au premier rang desquels figure bien sûr celle de la France, finisse par convaincre la Russie de l'intégrer à ce vaste échange de prisonniers. Avec Oleg Sentsov figure dans l'avion qui a rejoint Kiev les 24 marins ukrainiens arrêtés fin 2018 par les Russes dans le détroit de Kerch, à l'est de la Crimée. Cet échange de grande envergure marque en tous les cas le premier véritable signe de détente entre l'Ukraine et la Russie depuis des années. Un premier pas vers la paix, vient de déclarer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Claude Brouillot en direct de Moscou pour France Inter. Merci. À l'étranger encore, l'Iran passe la vitesse supérieure et met en route une vingtaine de centrifugeuses avancées, soit interdites par l'accord de 2015 sur le nucléaire. Un accord plus que menacé depuis le retrait des Américains. Et puis à Hong Kong, des policiers mobilisés un peu partout. Tout encore ce samedi, les autorités craignent que des manifestants pro-démocratie viennent à nouveau perturber le fonctionnement de l'aéroport. Aigle Azur cloué et des milliers de passagers bloqués, sale week-end en perspective. Aigle Azur a déposé le bilan cette semaine et arrêté net tous ses vols hier. Les passagers en Algérie notamment se retrouvent le bec dans l'eau. Bonjour Manuel Ruffès.
Bonjour.
D'abord, est-ce que ces voyageurs vont pouvoir rentrer? Et puis si oui, comment?
Eh bien ça s'organise. Il y avait une réunion hier soir autour du secrétaire d'État chargé des transports qui assure que l'État est mobilisé pour que chaque passager se voit proposer une solution de rapatriement. Les compagnies aériennes françaises, Air France, Corsair, Air Caraïbes et XL Airways invitent ces personnes bloquées à prendre contact avec elles. Elles proposent dans une espèce de mouvement de solidarité entre compagnies françaises, des billets à prix coûtant. Mais encore faut-il qu'il reste des places libres. Air France notamment a mis en place des vols supplémentaires et affrète des avions de plus grande capacité.
Alors Manuel Ruffès, quel est l'horizon pour Aigle Azur? C'est la grande question. Les pilotes, dans un communiqué ce matin, soutiennent une reprise par l'ex-PDG de HOP, filiale d'Air France. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le scénario le plus crédible?
Le plus crédible aux yeux des pilotes du syndicat SNPL, oui, pour la simple raison que ce serait, selon son président, la seule qui conserve la compagnie dans son ensemble. Martin Sursur était l'invité ce matin de France Info.
Nous soutenons une offre de reprise portée par monsieur Lionel Guérin, ex-PDG de HOP, qui pour l'instant est le seul repreneur qui a pour ambition de maintenir Aigle Azur dans son intégrité dans un premier temps, puis de la développer dans un deuxième temps, avec l'appui des salariés qui rentreront au capital grâce à des efforts salariaux et des efforts de productivité. Nous sommes persuadés, nous avons des éléments concrets qui nous permettent de penser qu'Aigle Azur, bien gérée, a tout l'avenir devant elle.
Et on parle aussi d'Air France et du groupe Dubreuil, propriétaire d'Air Caraïbes. Aigle Azur a des atouts, notamment des créneaux horaires très disputés à Orly et son réseau algérien. Mais reprendre Aigle Azur, c'est surtout reprendre 1200 salariés, 40 millions d'euros de dettes et pas d'avion puisqu'elle n'en est pas propriétaire.
Et les syndicats appellent les salariés de la compagnie à manifester lundi après-demain devant le ministère du Transport. C'est Emmanuel Ruffès du service économie de France Inter pour les explications. Ils veulent ranimer le mouvement. Plusieurs appels à manifester lancés par les Gilets jaunes aujourd'hui à Paris, Lille, Strasbourg ou Montpellier. Cet été, quelques actions par-ci par-là. Une simple pause, jurent les militants qui promettent un septembre noir. Pendant ce temps, le parti de la majorité, lui, entre dans le rang et tente de serrer les coudes. La République En Marche organise sa première université d'été à Bordeaux ce week-end. Une pratique, pourtant, que le parti d'Emmanuel Macron jugeait jusqu'ici vieillotte et coûteuse, mais faut croire qu'En Marche aussi a besoin de normes. La candidature dissidente de Cédric Villani à la mairie de Paris pose question à ce mouvement né lui-même d'une rupture. Le quinquennat aussi qui entre dans l'acte 2 avec une promesse du président, moins de réformes, plus de concertation. Karine Bécard, vous êtes notre envoyée spéciale à Bordeaux, bonjour.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit sont les militants que vous avez pu rencontrer, vous, ce matin ?
Eh bien, les militants sont contents. Ils sont contents qu'elle existe enfin, cette université de rentrée, parce qu'ils sont beaucoup à penser, comme Haussmann, par exemple, qui vient de Normandie, qu'il a des choses à dire, mais qu'il n'a jamais l'occasion de pouvoir les exprimer.
C'est un parti jeune, enfin un parti, on dit un mouvement jeune, donc forcément il y a des choses à revoir et ben, c'est pas facile effectivement de dialoguer ou de faire remonter les idées.
Donc plus de démocratie participative, comme l'avait promis Emmanuel Macron, mais ce qui a été depuis son élection passablement oublié. Maintenant ce qui agite aussi, vous l'avez dit, ici cette université d'été, c'est bien sûr les élections municipales. Faut-il sanctionner les candidats dissidents comme Cédric Villani à Paris ? Eh bien ce n'est pas ce que pense Thomas qui milite en Indre-et-Loire.
Non, la sanction, c'est vraiment le côté vieux RPR, là. Tout de suite, là, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse, etc. Non, c'est pas trop l'esprit d'En Marche.
De la liberté, voilà ce que réclame aussi Timothée, qui vient des Hauts-de-Seine. Il faut laisser tous ceux qui le souhaitent se lancer.
Personne, même Emmanuel Macron lui-même, n'a pas la science infuse. On n'a pas toutes les solutions et on a besoin d'être plusieurs pour avoir des solutions. Donc d'avoir différents candidats sur différents postes, c'est une très bonne chose. Ça fait plus de solutions et c'est très bien pour l'ensemble du pays.
Autrement dit, La République En Marche est un parti coincé aujourd'hui entre ses militants qui veulent retrouver les origines du macronisme, les valeurs du début et l'exercice du pouvoir qui exige de la discipline et de l'efficacité.
Karine Bécard avec Olivia Branger à la technique en direct de l'université d'été de la REM à Bordeaux. Merci à toutes les deux. De moins en moins de subventions publiques, sans parler de la suppression des emplois aidés, le monde associatif est à l'os et pas sûr que les 28 millions d'euros débloqués d'ici 2022 soient suffisants. Une enveloppe annoncée ce matin dans le journal Le Parisien par le secrétaire d'État Gabriel Attal. En bref, encore à Donges, près de Saint-Nazaire, 5 enfants ont été privés de cantine cette semaine. Les parents n'avaient pas pu payer la facture et la colère des autres parents d'élèves qui monte. Ils sont plusieurs à dénoncer l'humiliation pour ces enfants et la stigmatisation. Et puis cette personne intoxiquée, la ferme Dure, rappelle tous ses produits laitiers bio, yaourt, crème, fromage blanc. La production située dans l'est de la France est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre.
Le journal de 13h sur France Inter.
C'était il y a 5 jours et depuis on compte les victimes. L'ouragan Dorian s'est déchaîné sur les Bahamas. 43 morts, c'est le dernier bilan. Mais des centaines d'habitants sont toujours portés disparus. Les rescapés de l'île de Grand Abaco ont commencé à être évacués hier, mais plus de la moitié de l'île est complètement ravagée. Selon l'ONU, qui va envoyer 85 tonnes de nourriture dans les prochaines semaines, 70 000 habitants au total auraient besoin d'une aide immédiate. Avec nous, pour en parler, Thierry Robert, directeur général du Secours Populaire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Vous avez lancé avec le Secours Populaire un appel aux dons très tôt, dès dimanche dernier, avant même que l'ouragan soit au plus fort. Vous affichez combien au compteur aujourd'hui ?
Alors malheureusement, on a un petit peu de mal à collecter sur cette urgence et c'est bien dommage, je pense qu'on va y revenir. On a pour le moment un peu plus de 2000 euros de reversés au siège national. On attend aussi bien sûr des versements éventuels de financement institutionnel, de subventions et puis de ce qui est collecté dans notre réseau un peu partout en France.
Alors si ça avait été la Floride, par exemple, 43 morts, des milliers de sinistrés, on imagine que la mobilisation aurait été plus forte. Comment est-ce qu'on explique ça, cette espèce d'indifférence ?
Bah, peut-être que les Bahamas sont vécus aussi comme un paradis, alors que pour autant, pour ceux qui vivent dans un territoire avec la précarité, etc., bah, pour eux, c'est pas vraiment le paradis. Et donc, c'est peut-être une des raisons. Les Bahamas sont peut-être moins connus aussi des Européens. On va au cœur dans les Caraïbes, mais plutôt un peu plus au sud. Mmh. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que les personnes ne réagissent pas. Et puis, on vous remercie de nous donner la parole, puisque aussi pour que les personnes puissent puisse donner, ben, il faut aussi qu'on puisse relayer les appels, et c'est ce que vous faites, et on vous en remercie.
Je crois que vous avez quelqu'un sur place, hein, vous, depuis hier. Est-ce que vous avez déjà un premier état des lieux? À quoi ressemblent ces îles 4 jours ou 5 jours même après le passage de l'ouragan?
Bon, il ressemble à ce que vous voyez, bien sûr, à la télévision. Effectivement, on a donc un délégué qui est sur place avec une enveloppe de 50 000 euros, puisque nous avons débloqué 50 000 euros de notre fonds d'urgence, et puis qui est rejoint par des partenaires que nous avons dans les Caraïbes qui ont l'expérience de ce type de catastrophe et qui l'ont eux-mêmes vécu il y a 2 ans lors du passage de plusieurs ouragans, notamment l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et donc, nos partenaires sur cette région rejoignent notre délégué et donc vont mettre en place tout ce qu'ils peuvent pour apporter une solidarité d'abord matérielle et puis construire une solidarité dans la durée, puisque le traumatisme durera pendant de nombreux mois. À ce titre d'ailleurs, nous sommes toujours présents auprès des victimes de l'ouragan Irma sur Saint-Martin par exemple.
Et sur place, c'est quoi? Des aéroports fermés, l'eau potable difficile d'accès, des maisons détruites?
Oui, c'est pour ça que l'urgence pour nous, ça va être repérer un certain nombre de lieux où il y a donc des victimes et sur lesquels on va agir très vite pour la mise à l'abri, mais aussi pour l'accès à l'eau potable, des lampes solaires, des produits d'hygiène et puis aussi des aides alimentaires, notamment des conserves, hein, puisque c'est quand même ce qui est préférable à acheminer. Et on va surtout organiser une solidarité dans la région en s'appuyant sur notre réseau dans les Caraïbes pour ne pas avoir à forcément acheminer des aides depuis la métropole si on peut éviter les coûts de logistique.
Et Thierry Robert, je crois que vous parliez d'Irma justement, vous êtes habitué à intervenir comme ça sur les îles. Est-ce qu'il y a une spécificité insulaire?
Oui, bien sûr, puisque d'abord le problème, c'est qu'il faut que pendant que l'annonce se fait, c'est pour ça d'ailleurs que on était à peu près sûr des dimanches, alors que l'ouragan n'était pas encore passé, que des dégâts seraient considérables. Et on sait par expérience que les plus défavorisés, les plus pauvres, sont ceux qui ne vont pas quitter, qui ne vont pas pouvoir quitter les lieux, puisque ce sont des îles. Et puis les Bahamas, c'est un État, hein, c'est donc un territoire un peu fermé, on va dire. Et du coup, les personnes les plus défavorisées, ceux qui ont des petits boulots, notamment les petits boulots liés au tourisme, entre autres, où les personnes âgées n'ont pas pu quitter. Donc, ils ont vécu, malheureusement, le passage de cet ouragan, le traumatisme. Et puis, ils ont perdu le peu de leurs biens, notamment leur maison qui a pu être détruite. Donc, soit on peut amener des toiles pour couvrir les toits, soit il faut aussi tout reconstruire quand il s'agit de cases ou d'autres habitations de ce type.
Thierry Robert, en quelques mots, une adresse, un site internet où on peut vous adresser les dons?
Tout à fait, www.secourspopulaire.fr ou au siège de l'association 911 rue Froissart, Paris 3e. Sur le site, vous pourrez aussi avoir les informations de ce que l'on fait dans ce type de catastrophe et au fur et à mesure que nos délégués mettront en œuvre,
ligne,
l'information circulera.
Thierry Robert, voilà. Directeur merci. Général du Secours Populaire, merci à vous d'avoir merci été en direct vous. Avec nous ce midi sur France Inter. Bon courage. On reste de l'autre côté de l'Atlantique avec une autre terre ravagée, l'Amazonie. 7 pays de la région qui signent un pacte de protection de la forêt, le Brésil de Bolsonaro en tête. Le texte prévoit notamment une surveillance par satellite et une intervention coordonnée en cas d'incendie. Le président Bolsonaro, souvent mis en cause pour sa politique de déforestation, se souvient bien sûr de la querelle toujours en cours avec Emmanuel Macron. Et bien voici que le pape y met son grain de sel. En visite sur l'île de Madagascar, terre brûlée également, le pape a lancé un cri d'alarme contre la déforestation, mais aussi contre la corruption. Bruce de Galzin, notre reporter, suit le pape.
C'est par l'extrait de Nabucco de Verdi, le Va Pensiero, que le pape a été accueilli. Le chant de ralliement des patriotes italiens, un choix plutôt surprenant pour saluer le chef de l'État du Vatican. Le président malgache, André Rajoelina, s'est d'ailleurs permis quelques envolées lyriques qu'il n'avait pas adressées au Vatican, en se présentant comme le sauveur de son pays. « J'ai entendu le cri de mon peuple, cela m'a fendu le cœur, je vais tout faire pour le sortir de la misère », a-t-il dit. Le pape a salué un discours patriote et plein de passion, mais a dénoncé la corruption endémique et la spéculation qui dévaste la riche biodiversité de Madagascar.
« Cette richesse est particulièrement menacée. »
Cette richesse est particulièrement menacée par la déforestation excessive au profit de quelques-uns. Sa dégradation compromet l'avenir du pays et de notre maison commune.
Le président malgache, lui, n'a pas évoqué la déforestation, alors qu'environ 200 000 hectares de forêts sont perdus chaque année, selon l'ambassadeur britannique présent ce matin, et que la majorité de la forêt tropicale pourrait disparaître d'ici 2040. Au palais présidentiel de Tananarive, Bruce de Galzin, France Inter.
Préoccupation à la fois écologique et sanitaire, les pesticides. Le gouvernement lance lundi après-demain une concertation pour à terme fixer dans la loi la distance minimale à respecter entre le champ traité et les maisons autour. L'Agence nationale de sécurité sanitaire préconise des distances entre 5 et 10 mètres selon les cultures, bien loin d'être suffisant, dénoncent déjà certains élus. Le projet de décret, lui, est à retrouver sur le site du ministère. La concertation devrait durer 3 semaines. Et voilà un énième rapport sur le réchauffement de la planète. Le Haut Conseil pour le climat en a publié un en juin dernier sur la France à la traîne en matière d'émissions de CO2. Rapport destiné au gouvernement et aux décideurs, un peu trop technique visiblement, puisqu'aujourd'hui ce Haut Conseil vient d'en publier une autre version vulgarisée. On pourrait appeler ça le climat pour les nuls. Et c'est un reportage de Célia Kiré.
D'où viennent les émissions de CO2? 31% des transports, 20% des bâtiments ou de l'agriculture? Quelle est la stratégie de la France pour lutter contre le réchauffement? Dans ce rapport, vous comprendrez pourquoi la France est en retard. La baisse des émissions de carbone a été 2 fois plus faible que prévu, notamment à cause des transports. Seuls 2% des voitures sont électriques ou à cause du chauffage au fioul. Or, il y a des solutions, un investissement public dans les transports en commun, davantage de normes, des taxes ou des subventions pour accélérer la transition. Pour la climatologue Corinne Lequeré, ce sujet doit être au cœur de toutes les décisions.
On veut que les gens retiennent que l'enjeu est grave, mais qu'on peut faire quelque chose pour avancer et avoir des réponses qui soient à la hauteur des défis. La France s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et pour le moment, les émissions en France, elles diminuent, mais elles diminuent pas assez vite. Il faut vraiment augmenter, accélérer le niveau des actions.
Ce rapport donne enfin des recommandations, que toutes les lois soient par exemple compatibles avec une réduction de l'empreinte carbone, faire évoluer l'industrie et globalement toute l'économie, intégrer le changement climatique dans l'éducation et la formation. De son côté, le gouvernement a jusqu'à fin décembre pour préciser sa stratégie devant les députés.
Célia Kiré. Les Springboks en deuil à 2 semaines du mondial de rugby au Japon. Chester Williams, l'ancien ailier du 15 d'Afrique du Sud, champion du monde 1995, premier joueur noir à porter les couleurs de son pays. Chester Williams donc est mort. Crise cardiaque à 49 ans. Problème, ce n'est pas le premier. De quoi se poser quelques questions sur cette équipe sud-africaine de 95. Claire Bargelès est au Cap pour France Inter.
L'ancien ailier métis aurait été victime d'une crise cardiaque dans la ville du Cap, où il était devenu entraîneur de rugby. Chester Williams aura joué 27 matchs sous les couleurs des Springboks, mais le moment le plus emblématique de sa carrière restera cette finale de Coupe du Monde contre les All Blacks néo-zélandais en 1995. Il sera à ce jour-là le seul joueur non blanc parmi ses coéquipiers sud-africains sur la pelouse d'Ellis Park et deviendra l'un des symboles de la nation arc-en-ciel souhaité par Nelson Mandela. Il s'agit du 4e joueur de l'équipe historique de 1995 à perdre la vie. Chester Williams s'est éteint moins de 2 mois après la mort de son ancien coéquipier, l'ailier James Small, alors qu'il était, selon le président de la fédération de rugby, jeune et en bonne santé apparente. Cette disparition vient donc s'ajouter à une série de décès prématurés et renforce les soupçons de dopage qui planent au-dessus des champions du monde, d'autant que 2 autres Springboks de cette équipe de 1995 sont morts des suites de maladies rares. Au Cap, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
Les Bleus reviennent sur la pelouse. France-Albanie ce soir, match de qualification pour l'Euro 2020, c'est du foot. Beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, Mbappé, Pogba, Dembélé, Kanté. Et va quand même falloir s'accrocher après la défaite en Turquie en juin dernier. Coup d'envoi au Stade de France donc ce soir, 20h45. Comme tous les samedis dans le 13h sur Inter, on termine avec les prescriptions du service culture de la rédaction qui nous emmène aujourd'hui à Perpignan. 31e Festival international de photojournalisme, Visa pour l'image, et parmi les 23 expositions, Alexandra Akoun a retenu surtout celle du français Cyril Abad, Le Voilà, qui propose aux visiteurs In God We Trust, un voyage au cœur des excentricités de la foi aux États-Unis.
Ce pourrait être un cycliste banal dans la nuit, sauf que sur la photo, celui-là a une croix d'au moins 2 mètres de long accrochée à son vélo, une croix sur roulette et qui brille dans la nuit. Un outil comme les autres aux États-Unis pour répandre la bonne parole, a pu constater Cyril Abad.
La religion, au même titre qu'une entreprise, a commencé à cibler des marchés de niche pour aller conquérir de nouveaux paroissiens. Donc j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé des choses marrantes.
Comme ce pasteur rencontré en Virginie qui a mis au point une toute petite église mobile avec flèche rétractable, ou cette église drive-in en Floride où on assiste à l'office les fesses dans sa voiture.
Ça s'adresse principalement aux personnes âgées qui ne peuvent plus trop se déplacer à l'église et qui peuvent venir là dans leur voiture, dans l'air conditionné parce qu'on est en Floride, il fait au moins 40 degrés, assister au sermon d'un pasteur. La petite anecdote, c'est que pour dire « Amen », les gens klaxonnent.
Mais certaines initiatives capturées par Cyril Abad, prête-moi un sourire, dans le Kentucky, a ainsi fleuri un parc d'attractions créationniste avec Arche de Noé, grandeur nature.
Tout le long de l'itinéraire dans l'Arche de Noé créationniste, on va déconstruire vos théories darwiniennes de l'évolution et progressivement mettre dans votre cerveau l'idée que Dieu a créé le monde en 6 jours, c'était il y a 6000 ans, et que Noé, par exemple, a sauvé les dinosaures.
Perpignan, Alexandra Hakoun, France Inter.
Et si ce reportage d'Alexandra Hakoun a piqué votre curiosité, visa pour l'image, ça dure encore une semaine à Perpignan. Allez, c'est l'heure de jeter un œil à la météo du jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Le coup de frais persiste, Jean-Michel Golinski.
Des températures plus fraîches qu'hier dans la moitié nord du pays, de l'ordre de 16 à 18 degrés près de la Manche et dans le nord-est, contre un maximum de 27 en moyenne sur le bassin méditerranéen, en passant par 23 au sud de la Garonne, 22 en Rhône-Alpes et une vingtaine de degrés du Val-de-Loire au bassin parisien. Le vent de secteur nord sera assez désagréable entre la Manche et la Loire. Le Mistral et la Tramontane vont souffler vers 70 km à l'heure. Le ciel sera variablement ensoleillé cet après-midi avec un risque d'ondées, notamment du nord de la Seine à l'Alsace, des Charentes au centre et des Alpes à la Corse. Demain, dans une ambiance toujours fraîche dans la partie nord, le soleil va s'imposer sur la façade ouest et le pourtour méditerranéen. En revanche, sur la moitié est du pays, le risque d'averse va persister, avec même un peu de neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes. Et puis, on remarquera le renforcement du Mistral, de la Tramontane et du vent d'ouest sur la Corse.